Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service de ce jour, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur qui nous écoutent sur www.radiookapi.net. Comment promouvoir une sexualité responsable chez les jeunes? C'est le deuxième thème de cette émission. Vous savez, en RDC, particulièrement dans les grandes villes, les jeunes se livrent précocement à la sexualité, la curiosité, les mauvaises compagnies et surtout l'accès aux sites pornographiques sur Internet sont parmi les facteurs à la base de cette propension des jeunes à s'adonner au sexe très tôt, d'après les experts. Cependant, le danger est bel et bien là, car bon nombre d'entre eux ne se protègent pas lors des rapports sexuels, ce qui les expose à des infections sexuellement transmissibles, au VIH-SIDA et au risque de grossesse chez les jeunes filles. Alors, comment promouvoir une sexualité responsable chez les jeunes? Docteur Caroline Bondonga est chargée des recherches et points focales adolescents et jeunes femmes au Programme national des luttes contre le SIDA. Docteur Caroline, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service.
Oui, ça, merci.
Alors, la première question, qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui ont des comportements de plus en plus irresponsables sur le plan sexuel?
Bon, les jeunes ont des comportements irresponsables par ignorance. Hein. Les jeunes, vous savez, ils n'ont pas de bonne information.
Oui.
Ils ont de l'information diffuse. Ils se fient à ça. La bonne information, ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas la bonne information? Bon, les gens qui sont aussi censés d'informer les jeunes, par moment, d'abord, en commençant par la maison, qui est la cellule de base, la famille, dans notre culture, tu le sais,
le tabou.
Difficile de parler, les tabous, voilà. Mmh. Il est vraiment difficile de parler de la sexualité avec les enfants. Donc, c'est vraiment un tabou. Parfois, on laisse les enfants échanger avec les grands-mères, les grands-pères, alors que les parents biologiques sont là, les responsables sont là. On laisse les enfants peut-être avoir les informations difficiles parce qu'ils ont peur de parler de la sexualité avec les enfants. Et ce qui fait que entre pères, ils s'informent, ils se donnent des mauvaises informations. Et vous savez, entre pères, on a plus confiance. Hein. Mon ami m'a dit ça. Mmh. Et le jeune ou adolescent accepte, tu le prends comme ça, sans pour autant critiquer. Et il y a beaucoup, beaucoup de mésinformations, beaucoup de mauvaises informations entre jeunes.
Et si l'ami lui a dit ça, pourquoi cet enfant ne revient pas vers son père ou sa mère pour poser des questions?
Est-ce qu'il y a vraiment des dialogues parfois? Il y a des communications entre parents et enfants? C'est difficile, les gens sont laissés entre, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Hein? Les jeunes, les ados et jeunes. On a peur de dire aux parents, si je pose une question par rapport à la sexualité, qu'est-ce qu'on va dire? Tu as déjà commencé? Hein? C'est ce qui s'est dit, non?
Oui.
Tu as déjà commencé? Tu es pressé? Tu es pressé? Tu as déjà commencé? Qu'est-ce qui te pousse à poser cette question? Vous savez, même par rapport, même pour les prestataires qui ne sont pas formés par rapport à la prise en charge des ados et jeunes,
oui.
Parfois ils s'étonnent quand ils voient un adolescent, une adolescente, qui viennent en consultation avec des problèmes sexuels, des infections sexuellement transmissibles, ou bien avec une grossesse, ou bien un problème à demander le moyen contraceptif, ils s'étonnent. Et ce qui fait que les ados évitent parfois de consulter les services. Donc, il y a d'abord un problème de culture.
Voilà, il y a un problème culturel.
Des us et cultures. Des us et coutumes qui nous tirent vraiment vers les bas, par rapport à l'information qui n'est pas bien donnée aux adolescents. Alors, ceux qui prennent dans la rue, là, ils les copent comme ça et puis ils les mettent en pratique. Et ils ont des risques. Les risques, le fait d'avoir, que les parents refusent de donner de communiquer aux enfants sur leur vie sexuelle. Et ça pousse nos enfants d'avoir des grossesses précoces et des grossesses non désirées.
Mais dans des écoles, il y a des cours d'éducation à la vie où les enseignants devraient également en parler aux enfants.
Oui, actuellement, dans le curriculum, on a quand même secondaire. Hein. En tout cas, secondaire, primaire vers la fin, il y a quand même, on a introduit les cours du VIH et d'éducation à la vie où ils parlent un peu de tout. On parle un peu de tout, de la vie sexuelle. Mais cela ne suffit pas. À l'école, on apprend à l'enfant et à la maison, si on interdit à l'enfant de poser une question. L'enfant va faire quoi? Même là, on donne ces cours-là. Les enfants viennent avec des informations entre pères. Hein. Moi, j'ai fait ça. Si vous êtes vierge à tel âge, vous n'aurez pas d'enfant. Donc, il faut avoir des petits copains. Et quand ils se donnent ces informations-là, il faut avoir des petits copains. Est-ce que quand ils y vont, est-ce qu'ils utilisent des préservatifs? Je ne pense pas. Je ne pense pas, donc c'est vraiment un problème. Il faut d'abord la communication.
Voilà.
Il faut que les jeunes puissent avoir la vraie, l'information, oui, mais la vraie information. La meilleure, l'information qui viendra des parents ou bien des responsables. Non, ça c'est la vraie information. Des prestataires, des parents, et que les ados et jeunes soient informés. De l'air d'abord de transformation corporelle et puis de risques qui courent par rapport à cette transformation-là. Parce que les besoins sexuels, ce sont les besoins physiologiques, c'est les besoins naturels. Mais il faut savoir maintenant les encadrer par rapport à ça. Au cas où ils seraient déjà sexuellement actifs, des bas âges, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que cette adolescente-là, que cet ado-là, ne puisse pas attraper les VIH-SIDA pour nous là, ne puisse avoir une grossesse non désirée précoce. C'est ce qu'il faut. Quelles sont les précautions, quels sont les moyens, les méthodes qu'on peut éviter pour éviter les grossesses et puis éviter les maladies.
Voilà. Et docteur, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les jeunes, 12 ans, 11 ans, s'adonnent déjà au sexe alors que c'était pas le cas il y a quelques années?
Bon, c'était pas le cas il y a quelques années. Ces années, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont des téléphones, ils ont des iPhones, ils ont des Android, ils sont tout le temps dans les téléphones, dans l'Internet. Ils voient tout à l'Internet. On les empêche quoi? Et puis l'influence des pères aussi. Et d'autres qui n'en ont pas, mais qui ont l'influence des pères. Les influences des pères jouent beaucoup sur la vie des adolescents et jeunes, parce qu'à cet âge-là aussi, la naïveté qui compte, on se découvre qu'est-ce qu'on est, ce que je veux aussi, est-ce que moi aussi, je suis belle. Ils veulent se faire voir dans la société, ils veulent se confirmer en fait que je suis aussi. Hein? Est-ce qu'ils ont la vraie information, nos enfants-là? Hein? L'information qu'ils ont, est-ce la meilleure? Qui leur donne cette information-là? Et quand? Il faut se poser toutes ces questions-là. Mais nos enfants, on les laisse à la merci de la rue pour avoir l'information. Or, la rue, nous savons ce que c'est la rue. La rue ne donne pas la meilleure information aux enfants. Il y a l'influence des pères, il y a l'influence de la technologie, en fait. La nouvelle technologie apporte des meilleures choses, il y a aussi des mauvaises. Les enfants, ils sont tout le temps dans les téléphones, il y a les films, et ça leur donne peut-être l'appétit sexuel. Vous savez, dans le développement de la femme, c'est physiologique. Quand une fille a déjà ses règles, elle a ses ovulations, ça donne déjà de l'appétit. Les garçons, quand ils ont déjà, ils essayent de mouiller sa culotte le matin, vers 5 ou 4 heures.
Oui.
Là, ça prouve déjà qu'il est sexuellement actif et qu'il a déjà cet appétit sexuel. On ne sait pas l'étouffer, mais on sait l'encadrer. Non, pour moi, il faut encadrer les jeunes. Il faut les encadrer pour leur faire voir les mauvais, les conséquences des actes qu'ils posent par ignorance, mais par manque d'information, par manque de connaissances. Nous, on veut que les jeunes soient informés d'abord.
Alors, au niveau de votre programme, qu'est-ce que vous faites pour encadrer les jeunes?
Nous, les jeunes, d'abord, la sensibilisation. On les sensibilise, c'est-à-dire on donne l'information. Nous donnons l'information sur les VIH-SIDA, la prévention, qu'est-ce qu'il faut faire, les méthodes, les moyens de prévention, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas attraper les VIH-SIDA. C'est c'est ce que nous donnons. Quels sont les moyens contraceptifs aussi, c'est ce que nous donnons aux adolescents et jeunes. C'est-à-dire, ils doivent connaître, au cas où je ne sais pas me contenir, parce qu'on peut dire, bon, chez les jeunes, nous disons, il faut l'abstinence, hein. C'est l'abstinence, oui, l'abstinence, oui. Mais le jeune qui ne saura pas s'abstenir, à lui-là, on doit l'abandonner. On ne doit pas l'abandonner. Parce que nous voyons parfois nos enfants, là, on dit, non, nous, chez nous, là, c'est vraiment la rigueur. Nous, chez nous, là, on veut les bouger. Les, hein, quoi? On veut qu'elle se marie vierge, mais vous allez avoir une fille enceinte, vous la découvrez qu'elle est déjà enceinte à 7 mois de grossesse, hein? Là, vous faites quoi? Vous l'avez abandonnée parce qu'elle était informée. Elle aurait peut-être utilisé les préservatifs.
Hein? Et là, les parents se sentent humiliés et ils vont chercher la chasser de la maison.
Oui, alors que si l'enfant était informé, elle aurait peut-être bien avec le médecin, ils auraient utilisé les préservatifs. Les préservatifs, nous, on dit, il y a double protection. Ça empêche que l'enfant ne puisse pas attraper les VIH-SIDA. Et puis, ça empêche les grossesses désirées, précoces et non désirées. Vous voyez? L'usage des préservatifs, mais dans nos us et coutumes, dans nos cultures, c'est difficile, moi, là, une mère, de dire à ma fille ou bien à mon garçon, il faut utiliser les préservatifs pendant qu'elle a 13 ans, 14 ans. C'est difficile. C'est ce qui nous bloque aussi. Mais il y a des filles, pendant que ça nous bloque, alors qu'il y a des filles qui sont déjà sexuellement actives à 12 ans, 12, 13 ans, parce qu'il y a des enquêtes qui ont déjà prouvé ça, qui ont prouvé qu'il y a 12, il y a les filles qui sont déjà 12, 13, 14 ans, les adolescents. Les adolescents qui sont déjà sexuellement actives.
Et donc, à l'école, elles causent entre elles, elles s'échangent beaucoup d'informations erronées.
Beaucoup d'informations erronées. Bon, c'est ça que je vous dis, non? Parce que quand tu arrives à un certain âge que tu ne connais pas d'homme, tu n'auras pas d'enfant. Il ne faut pas être vierge, tu n'auras pas d'enfant. Alors, on ne te courtise pas, tu n'es pas belle. Vous voyez? C'est ce qu'ils se disent, même dans les lycées, même dans les collèges, partout. Hein? Donc, il y a la mauvaise information qui circule, mais... Si nous, là, parents, commençons par la maison, et à l'école, et dans les structures de santé, on essaye d'informer les enfants le risque qu'ils courent en entrant précocement active sexuellement, ça va quand même réduire, d'abord, ça va réduire les risques d'attraper les sida, et ça va réduire les risques d'avoir les grossesses précoce et non désiré, avec toutes les conséquences qui s'en suivent.
On va accueillir les auditeurs. Gaston est à Kinshasa. Bonjour. Gaston, bonjour. Gaston, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Quelle est votre question?
Bon, je dis, je veux un peu que madame puisse un peu nous éclaircir un peu. Pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui qu'un jeune ou une jeune congolaise puisse vivre noir, si je peux dire vivre sa vie sexuelle, jouir de ses rapports sexuels dès le bas âge, sans qu'il y ait grossesse non désirée ou les maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi c'est pas possible jusqu'à aujourd'hui? Parce que je sais que dans d'autres siens, les parents se contentent, tout ça, l'État se contente d'éduquer sa population dans le sens qu'on peut faire sa sexualité sans qu'on soit à l'abri des risques, bien qu'on sait que les risques existent toujours. C'est pour ça que les gens sont bien éduqués dès le bas âge. Ils vous font la sexualité à 12 ans, 14 ans, et jusqu'à l'infini sans avoir un enfant, ou peut-être un enfant comme ils l'ont voulu, sans attraper régulièrement des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi ça en... Et puis, j'aimerais aussi finir par là pour essayer un peu de vouloir demander à tout le monde, soit faire réfléchir tout le monde, pourquoi est-ce que nos enfants qui apprennent la sexualité de nos maisons, hein, parce que c'est nos parents qui, vous savez les maisons que nous habitons actuellement, il y a peut-être la maison n'a pas de chambre, peut-être c'est une chambre, peut-être c'est deux chambres, mais la façon de vivre de nos parents, ils font pousser de manière précoce à ces désirs sexuels. Mais c'est même par là, nous, la société nous interdit de vivre, ils nous mettent des contraintes, À 14 ans, tu as des désirs, mais ils te mettent des contraintes. Soit disant que je moi, si c'est mieux avant d'aller pas en gawa. Tu dois avoir une maison, au moins tu vas pas avoir ces besoins-là. Parce que derrière, ça se consomme de manière responsable. C'est pour ça que je dis, quand nos parents qui, d'une manière ou d'une autre, nous montrent, ne font pas la sexualité responsable et nous invitent à faire la responsabilité sexuelle en nous imposant des contraintes où on rencontre par-ci par-là où les gens sont même victimes de ces pratiques-là. Inconsciemment, ils n'ont pas une sexualité. Durant 50 ans, 30 ans, une personne n'a pas une sexualité. Ils ne vivent pas une sexualité pleine. Et beaucoup de contraintes.
D'accord, merci. Merci beaucoup.
Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais oui. Voilà.
On va donner la parole à Malonga de Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour Jody. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et à notre invité là.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, l'éducation sexuelle, c'est un problème vraiment complexe, s'il vous plaît, Jody. Pourquoi je dis comme ça? Puisque ça n'a pas vraiment une solution préalable. Pour, vous voyez que ce sentiment-là, si un enfant atteint l'âge de la puberté, c'est très difficile pour elle à comprendre avant. L'enfant vient de comprendre si il a déjà subi une conséquence.
Monsieur Malonga, est-ce que, par exemple, chez vous à la maison, vous avez le temps de parler à vos enfants, à vos filles,
effectivement,
par rapport à la sexualité?
Oui, c'est par là où je viens, je dis. C'est par là où je viens. Vous voyez, si moi,
pas seulement les filles et garçons, je voulais dire.
Oui.
Je voulais dire filles et garçons, pas seulement, il n'y a pas que les filles qui sont concernées.
Oui, c'est ça. Les garçons et les filles. Moi, j'ai des garçons et des filles. Alors, si je parle avec eux en tant qu'un parent devant les enfants seront calmes. Mais s'ils se trouvent eux-mêmes là, avec tout ce que l'invité vient de soulever là, et leurs androïdes, et leurs aussi, les livres pornographiques et tout ça, tout ça, tout ça, ils oublient tout ce qui leur donnait par les. Et par les parents. Si une fille se trouve engrosse, ou bien un garçon est retrouvé engrossé quelques filles, c'est par là où il va se souvenir que, oh, notre papa avait dit cela. Ce que moi je proposerai, et je vois que ça fait bien, l'éducation sexuelle n'a pas l'âge à l'enfant. Ça commence par la maison, et aussi ça doit être aussi diffusé même dans des églises, dans des associations et communautaires, même aussi dans des partis politiques, puisqu'il y a d'autres partis qui sont là, qui regorgent les parents, mais les parents qui sont vraiment mioués devant leur fils, si leur chef politique s'adresse à ça, il récupère même une minute, même deux minutes seulement de flash, de dire que non, vous avez des enfants à la maison, il faut leur dire ceci, cela. Si chaque jour, chaque matin ou bien chaque soir, le parent prononce ce mot-là, répète ça, en tout cas parmi les enfants, il y aura ce qui va retenir la parole des parents. Mais si on laisse seulement ça à l'éducation sexuelle ou bien les centres d'éducation sexuelle, bon, ces centres-là n'arrivent pas vraiment à rassembler tous les jeunes du village. Mais les églises, les écoles, aussi d'autres associations communautaires, si tous sont informés à cette notion-là, vous verrez que la majorité des jeunes seront convaincus et seront informés. Peut-être on peut vaincre ça.
Bien.
Mais suivant aussi le changement climatique aujourd'hui,
oui.
Vous voyez que le corps est trop réchauffé. Et puis l'habillement aussi des jeunes filles et des jeunes garçons, ça laisse aussi même, ils n'ont pas des androïdes, mais ça, voir toujours les fesses, les slips, hein, les caleçons, comment ça se dessine là, des fesses d'une jeune fille. Aussi, un jeune garçon qui marche vraiment presque nu, vous verrez que tout ça, ça excite seulement à faire les besoins, même si ça n'était pas vraiment prévu à ces jeunes-là. D'où il faut aussi l'État surveille à ça pour encadrer aussi la jeunesse dans un bon mœurs. Sans
bien,
cela,
oui.
On va toujours déplorer.
Merci à Justin de Fungurume, bonjour.
Bonjour mon ami Jody, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
En tout cas, c'est un sujet purement psychologique. Là, nous devons tirer les arguments dans ces cours-là. Moi, je me rappelle, mon professeur qui m'avait donné ce cours en cinquième est M. Jean-Pierre Kankoumoukandi, le docteur, le président du MDEC. Ils avaient dit que l'enfant est beaucoup le type de son temps que le type de son père. Nous avons trois milieux éducatifs que la psychologie nous donne. Il y a la famille, il y a l'école, la rue et si on peut y ajouter aussi l'église. Donc ce sont ces gens qui doivent accueillir, ce sont de ces histoires-là qui vont accompagner l'enfant à bien grandir et à respecter les étapes. La question aujourd'hui qui peut nous revenir, c'est parmi ces éducations-là, les milieux éducatifs, nous avons la rue qui s'impose et tacle même la famille, tacle l'école et tacle même l'église. Alors, nous devons nous préparer comment l'éducation de la famille, l'éducation de l'école et l'éducation de l'église puissent se remplacer et prendre l'ampleur sur l'éducation de la rue.
Et Justin, certains disent que les enfants regardent beaucoup actuellement les séries télévisées où les gens s'embrassent, tout ça, etc. Ça les excite.
J'arrive, monsieur Jody, avant d'atterrir. Je vous dis que s'il y a les androïdes, les Congolais souffrent. À quelle forte raison chaque enfant de moins de 12 ans utilise l'androïde? Donc les Congolais, si on peut en compter, c'est peu. Deuxièmement, la connexion n'est pas partout. La connexion est dans des grandes villes et toujours aux enfants des riches. Ou soit les gens qui ont quelque chose à la main. Si nous faisons les calculs, donc c'est le Kinshasa, Lubumbashi, des grands centres qui hébergent la connexion. Il y a beaucoup des endroits là où il n'y a pas même l'antenne. Même au moment que je vous parle pour communiquer, nous devons recourir aux lettres ou soit se placer devant la route. Pour.
D'accord. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité maintenant?
Ma question à l'invité, quels sont les mécanismes que l'invité propose pour que l'éducation du fils et l'éducation de l'église remportent la victoire sur l'éducation de la rue. Ça provient de la libertinage, c'est pourquoi nous tombons dans ça. Il y a un enfant qui n'a jamais vu, qui ne connaisse même pas à manipuler le téléphone, mais il se livre à la sexualité. Il y a quelque chose, si notre invité peut entrer dans des recherches pour nous trouver. Et si c'est facile de nous trouver, comment remplacer, pour que qu'est-ce que les mécanismes que nous allons utiliser pour l'éducation de la rue faillissent et nous prenons l'éducation de la maison et l'éducation de l'école et même de l'église, puisqu'il y a certaines églises qui ont réussi à recadrer leurs enfants, tels que si à l'occurrence je peux citer les témoins de Jéhovah, Tabernacle. Donc ils ont essayé à se forcer vraiment pour gagner l'éducation de la rue. Qu'est-ce qui nous reste aussi avec notre invité qui est au plateau?
Bien, merci. Merci Justin. Oui. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur Jody et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la sexualité des jeunes?
Monsieur Jody, j'ai suivi bien l'invité dès le début. Il nous a parlé pour dire que ce qui manque vraiment, c'est la communication. Bien sûr, on sait bien que l'éducation, moi, c'est tout dans la famille. Aujourd'hui, vous allez écarter, on peut donner l'éducation dans la famille, mais des milieux où les enfants fréquentent plus. Les enfants partent à l'école, c'est dans des endroits où ils se retrouvent. Si parfois l'enfant part à l'école et il se retrouve avec ses enfants, il a vraiment des moyens, qui fait des choses. Et l'enfant aussi se trouve ici, l'enfant aussi se retrouve, il manque au moins quelque chose. Si peut-être son ami a un téléphone, il manque aussi un téléphone. Si son ami aussi s'habille bien, mais lui aussi manque ça. Peut-être que ça peut aussi lui faire de se constituer aussi. Et si vous allez aussi constater, nous sommes en fait dans le monde, les enfants aujourd'hui cherchent toujours à découvrir. Il y a même des enfants, il y a même l'un de ses amis qui demande, est-ce que toi tu as déjà couché avec une femme? Si tu dis non, je lui dis, ah, toi qui es quel genre, il faut le faire, c'est bon. Vous savez que donc ça compte aussi. Le problème est qu'il faut toujours donner l'éducation et puis que même dans les églises aussi, il faut plus aussi intervenir parce qu'aujourd'hui...
D'accord, merci. Même les églises peuvent s'investir dans l'éducation de la jeunesse pour afin de promouvoir une sexualité responsable. Docteur Caroline, vous avez la parole.
Oui, en tout cas, je vois plus, il y a plus de contributions que des questions.
Oui.
Bon, il y a ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'il y a un problème, l'influence des pères, je l'ai dit aussi. L'influence des pères joue beaucoup dans l'éducation des enfants. Et moi, je l'ai aussi martelé. Ce qu'il faut faire, les remèdes, c'est quoi? Nous, en tant que parents, nous qui sommes parents, nous devons d'abord créer le temps. Parce que vous savez, actuellement, là, beaucoup de parents n'ont plus le temps pour dialoguer, pour échanger avec leurs enfants. L'éducation de la rue ou l'éducation du fils ne peut dominer qu'au cas où l'enfant n'a pas de communication avec ses parents. Elle peut avoir les informations erronées entre pères, mais si elle rentre à la maison en famille, qui est la cellule de base, et qu'il y a la bonne information, et qu'il y a la communication, les enfants ne considèrent pas leurs parents comme des shérifs, ou bien n'ont pas peur d'échanger avec leurs parents sur la sexualité. Moi, je trouve que c'est la meilleure des solutions. La famille doit rester la base de l'éducation. Dans la famille, on doit communiquer. Parce que s'il y a l'information au niveau de la famille, partout où l'enfant ira, c'est qu'on va lui communiquer là-bas, l'enfant se dira, non, j'ai eu cette information chez ma mère, parce que moi, je le fais aussi. J'ai des enfants qui sont au lycée, et ils ont les informations aussi erronées, mais quand ils rentrent, ils échangent avec eux, non, maman, c'est que tu nous as dit là. Et par rapport à ce que nos amis ont dit, la dame de l'éducation, la vie, nous a dit tel que tu nous as enseigné. Mmh. C'est la même chose que nos amis nous disent là, elles mentent. Elles disent que quand tu n'as pas encore connu d'homme à tel âge, c'est que tu n'auras pas d'enfant. Quand tu te maries vierge, tu n'auras pas d'enfant. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez, comme ils ont déjà donné l'information à la maison, il leur sera un peu difficile d'être influencés par leur père. Donc moi, je trouve qu'il faut la communication. On peut tout faire. Il faut d'abord la communication.
Voilà, il faut d'abord la communication. Docteur Caroline, par rapport, il semble qu'aujourd'hui, on a des séries télévisées. Chaque jour, les enfants regardent les gens en train de s'embrasser. Vous avez des clips vidéo où on montre des danseuses à moitié nues avec des danses obscènes, etc. C'est tout cet environnement qui pousse les enfants à une sexualité précoce.
Oui. Tout ça, ça pousse les enfants à une sexualité précoce. Moi, je trouve que quand nous avons grandi, il y avait quand même une commission de censure. Hein? On avait une seule chaîne, la chaîne, la RTNC. Il y avait une commission de censure. On ne passait pas les danses obscènes à la télé, tout et tout. Ça aidait aussi, ça nous aidait aussi pour ne pas être influencés. Mais actuellement, il y a tant de chaînes. Et puis, dans toutes les familles aisées, il y a quand même au moins une connexion. Ça pose aussi problème. Mais on ne peut l'éviter que l'enfant peut suivre. Si elle est en communication, une bonne communication avec les parents, en tout cas, il n'y aura pas vraiment une grande influence à cet enfant-là. Les parents, c'est la base d'abord de l'éducation pour les enfants. Et puis, s'il faut qu'on se le dise, il y a un intervenant qui vient de dire qu'il y a dans certaines provinces, nous, on a fait les tours du Congo. Il y a dans certains coins, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de communication. Mais les enfants sont sexuellement actifs dès bas âge, 12-13 ans. Par rapport peut-être à Kinshasa, où il y a la grande agglomération, où c'est la grande ville, par rapport aux grandes villes. Là-bas, à l'intérieur aussi, les enfants sont... Oui, il y a quand même les usos coutumes, il y a les normes. Les enfants sont sexuellement actifs dès bas âge, 12-13-14 ans, et ils tombent enceintes. Mais pourquoi? Il y a manque de communication. Parce que l'autre fois, moi, j'ai posé la question, on travaille avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders, les musiciens, tous, même les gens du théâtre, nous, on travaille avec eux. Mais le bon, c'est quoi? Il y a l'autre fois, on a posé une question à un imam qui dit, moi, je ne peux pas échanger dans l'une de nos provinces. Je ne peux pas parler de la sexualité avec ma fille ou bien avec mes enfants. Ça, c'est vraiment, les ancêtres vont me tuer. Donc, vous savez, il y a certaines us et coutumes qui nous ramènent vers le bas, qui nous bloquent. Et puis en dehors de ça, par rapport aux certaines mesures, vous dites que les enfants, ils entrent sexuellement actifs pour avoir les préservatifs dans, dans d'autres essais, on autorise. Mais nous, il y a aussi la loi qui nous bloque. Il y a aussi la loi qui demande qu'on peut poser certains actes à un certain âge. Alors, il faut avoir la majorité. Il faut avoir la majorité. Avoir 18 ans révolus. C'est aussi, quelque part, ça nous bloque aussi.
Oui. Alors, Justin a proposé qu'il y a aujourd'hui l'éducation diffuse qui déroute les jeunes. Il propose que la famille, les églises et les écoles puissent intensifier la sensibilisation pour barrer la route à l'éducation diffuse.
Mais nous, c'est ce que nous faisons. Là, nous travaillons avec les ados et jeunes, c'est ce que nous faisons. C'est ce que je vous ai dit. Nous, on travaille avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders, les autorités politico-administratives. On travaille avec tous ces gens-là. Malgré ça, même les autorités, là, je vous ai dit, non? Un leader religieux qui dit qu'il ne peut pas parler de la sexualité, donc quelque part, lui-même, il est déjà bloqué. Donc, nous avons un problème dans nos us et coutumes. Ça dépend d'un coin à un autre. Ça dépend d'un coin à un autre. Mais nous avons un problème d'abord des us et coutumes qui nous bloquent. On ne peut pas parler de la sexualité. Quelque chose qu'on parle à la maison avec l'enfant, quand l'enfant sort et échange avec les amis, le fait qu'elle ait déjà cette information dans sa propre famille, l'enfant va quand même être étiqueté et retournera à la maison pour poser la question à ce que ses amis lui racontent. Donc moi je me dis, on travaille avec les leaders, oui, mais la base doit être aussi la famille.
Voilà, il y a dans certaines familles, lorsque la fille tombe grosse, le papa se fâche et il incombe la responsabilité sur la maman.
Voilà, c'est la maman. Oui, c'est ce qui s'est fait. Mais pour interdire de parler de la sexualité, et tous ces gens-là, ils ont peur. Hein. La fille, elle a ses premiers menstrues. Moi, je vais donner un exemple. J'étais dans l'île de la province, on échangeait avec les responsables des écoles. Ils nous disent, une jeune fille qui a eu ses premiers menstrues, elle est venue, elle a taché. On lui dit, on a quand même aidé l'enfant pour se laver et puis rentrer à la maison. Deuxième, on appelle les parents, sa mère qui dit, moi je ne vais pas parler de ça avec ma fille, il faut que je l'envoie chez la grand-mère. Le temps d'envoyer l'enfant chez la grand-mère pour qu'elle échange sur la sexualité, ça a pris du temps et je pense 2 ou 3 ans, la fille était tombée enceinte et puis elle avait arrêté les études.
Oh là
là. Elle avait arrêté et la maman n'avait pas le temps, c'était la responsabilité, comme c'est ancré. C'est dans leur coutume, on doit parler, ne peut parler de la sexualité avec la fille, que sa grand-mère ne peut parler de la sexualité avec son fils, que le grand-père, c'est difficile.
Oui.
Donc, d'abord, c'est question de normes.
Voilà, c'est question des normes. On va accueillir 2 autres auditeurs, Godet de Kikwit et Grâce de Bounia. Godet, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la sexualité responsable chez les jeunes?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Laissez-moi vous dire la réalité qui se passe à Kikwit. Vraiment, je vais d'abord demander, il faut d'abord se poser des questions. C'est dû à quoi que les jeunes, premièrement, c'est dû à quoi les jeunes gens et les jeunes filles se font donc connaître cette infection ou cette maladie? Mais les jeunes gens d'aujourd'hui, les jeunes filles et les jeunes garçons, messieurs les journalistes, ils ne savent pas, premièrement, ils ne savent pas d'abord comment prier, ils n'ont pas même la crainte de l'Éternel, puisque beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens sont plongés dans les coins des rues, dans des télévisions, dans des bars et des bistrots. C'est ça le mal qui fait pousser aux jeunes filles dans l'âge de 17 ans, 15 ans, d'aller faire des rapports sexuels, d'aller prendre des infections transmissibles comme ça. Et deuxièmement, c'est dû aussi aux crises. L'invité n'a pas parlé ça. Les crises qui se trouvent ici au Congo, mais c'est catastrophique.
Par exemple, la pauvreté.
La pauvreté d'abord, je suis le mot pauvreté. Un parent qui touche 200 dollars, est-ce qu'il peut manger ça pendant un mois? Il sait qu'il y a un enseignant qui touche 100 dollars, 200 000, 180 000, est-ce qu'il peut manger ça un mois, même une semaine? C'est ça, vous voyez, arriver vers 17h, un jeune fille se maquille, il s'en aille quelque part, il passe la nuit là, quand il rentre le soir,
les parents commencent à l'embrasser, la maman commence à l'embrasser, ils préfèrent d'abord à ravir, d'abord les chasser des poulets, et sans compter que l'enfant passe la nuit où, puisque l'enfant a amené la nourriture pour manger. Mais c'est ça la crise, c'est ça la pauvreté. Vraiment, c'est ça la source de cette là, de cette maladie là. J'ai trois questions à poser à l'invité.
Lesquelles?
Quels sont l'âge de l'adolescent que les jeunes filles et les jeunes garçons atteignent? L'âge est de combien et de combien? Et deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'aux jeunes gens...
Vous voulez dire à quel âge les jeunes peuvent avoir des rapports sexuels, c'est ça?
Oui. Qu'est-ce qui se fait d'abord aux jeunes garçons et jeunes filles d'attraper beaucoup des infections? C'est seulement les rapports sexuels. Et pour terminer, est-ce que beaucoup de rapports sexuels aux jeunes gens, aux jeunes filles, ça fait aussi dégrader leur beauté? Voilà ma petite question à l'invité, c'est Godé Guidiombo.
Bien, grâce, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, moi là, j'ai une préoccupation qui me dérange beaucoup. Ici, avec la mode d'aujourd'hui, vous pouvez avec une fille, une petite fille vraiment, qui s'habille d'une façon regrettable. Vous savez, la fille qui porte un training, et elle sert ça, elle s'est montée ça presque jusqu'au niveau des nombrils, et tout son œil est vraiment visible, avec un body qui n'a pas vraiment sa taille, et elle sort avec ça de la maison pour aller avec ça à la route, ou partir avec ça où elle veut. Ça, c'est vraiment regrettable. La deuxième chose est, vous savez, une fille, vous la connaissez pas avec des histoires des hommes, et subitement, vous la voyez mineure, et subitement, vous la trouvez grosse. Vous la trouvez grosse. Donc, on s'étonne où elle a appris ça, où elle a trouvé cette grossesse. Ça, c'est regrettable.
Voilà, c'est regrettable, une fille apparemment innocente, mais voilà, on la retrouve grosse et puis c'est la déception dans la famille. Bon, docteur Caroline.
Oui, en tout cas, pour commencer par les derniers, dernière question, et moi je me dis, vous savez, l'adolescence, la puberté, c'est un âge de découverte, hein. La fille, il y a un développement, il y a une transformation du corps de la fille comme du garçon. Et puis les besoins sexuels, c'est un besoin physiologique. C'est un besoin physiologique. Mais se demander quand est-ce qu'elle a fait tout ça, moi je me dis, bon, ça on peut pas se poser ces questions-là parce que c'est un besoin physiologique. Et quand la fille ou le garçon n'est pas bien encadré, il va le poser, il va pas demander le quoi. Il ne doit pas demander la permission pour aller poser cet acte. Oui. On les fait en catimini. On ne les fait pas devant les gens. Mais si elle est bien encadrée, qu'elle lui a montré le risque de poser ses actes précocement, je pense qu'elle peut avoir, ou bien ils peuvent avoir des retenues. Et par rapport au précédent, il veut connaître l'âge de l'adolescence. L'adolescence, il y a les petits ados et les grands ados. Des 10 à 14 ans, nous avons les petits ados, et des 15 à 19 ans, ce sont les grands ados. Pour dire l'âge auquel on peut commencer les rapports sexuels, on peut se dire, dans notre pays, l'âge de la majorité, je l'ai dit, c'est 18 ans révolu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà fêté ses 18 ans, et qui est déjà responsable, et qui a quand même l'information sur la sexualité pour lui éviter les conséquences qui peuvent s'en suivre. On peut pas se dire avant 18 ans d'aller, parce que la loi nous l'interdit. La loi nous dit on peut marier une fille qu'après 18 ans, donc qui a déjà fêté ses 18 ans, avoir 18 ans révolu. Là, c'est l'âge de la majorité. Si on peut la marier, c'est qu'elle peut être sexuellement active. Et peut être en contact dans la sexualité. Là, ça ne pose pas de problème. Hein. Mineur en deçà de 18 ans, là, on nous parle de viol, là, on nous parle de violence et tout et tout. Donc, ce n'est pas la loi, nous le permet pas. La loi nous permet 18 ans révolus pour qu'on soit sexuellement active. Mais c'est là n'empêche pas à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons d'aller vers la sexualité. Et pour ça, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que vous l'avez dit là, il y a, on peut se retrouver, une fille à la maison, elle ne savait pas, elle est déjà enceinte. Mais on doit donner l'information, la vraie. La fille qui est déjà enceinte, oui, elle peut accoucher. Et si elle a le VIH, là, elle doit prendre des traitements à vie. Vous savez, donc, c'est qu'elle est sexuellement active. Or, pour éviter tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut communiquer. Nous devons communiquer aux enfants. Ils doivent avoir la vraie information sur la sexualité, sur leur vie sexuelle. C'est-à-dire au cas où on sensibilise dans les adolescents, c'est normalement l'abstinence. C'est-à-dire l'abstinence, nous à Lingala, on dit komi pima. Nous, chez les catholiques, on dit komi pima, c'est-à-dire tu t'abstiens. Komi pima, komi bomba. Mais si tu n'arrives pas de t'abstenir, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a quand même les moyens de protection.
Alors, Godet a parlé tout à l'heure, il dit, l'une des causes de la sexualité irresponsable chez les jeunes, c'est la pauvreté. Il dit, la crise, les parents n'ont pas d'argent, tout ça. Parfois, les parents les incitent même à aller dehors pour amener le riz et autres.
Bon, la pauvreté, oui, mais tous ces gens qui ont, toutes ces jeunes qui, bien qui ont étudié, sont pas issus des familles riches, hein. Un enfant qui est bien éduqué, une fille qui est bien éduquée, quel que soit le rang social de ses parents, si elle est bien encadrée, va pas se prostituer. On était au lycée avant les enfants des riches et puis les enfants de classe moyenne et les enfants de basse classe. Mais tous on allait, les femmes qui vendent les braises, elles ont fait étudier les enfants. La pauvreté, oui, mais si on est pauvre et qu'on a quand même, on tient l'éducation des enfants, on tient. La pauvreté fait influencer, mais et moi je me dis, on ne peut pas s'atteler à ça parce que nos parents qui nous ont éduqués n'étaient pas si riches. Hein? Mais quelque part, l'État aussi a une part de responsabilité. Actuellement, avec les présidents actuels, où il y a la gratuité, on peut se dire qu'il y a déjà une solution. Parce que la gratuité de l'enseignement, c'est déjà une solution pour nous. Ça, c'est un coup de chapeau à notre président.
Bien.
Un coup de chapeau, donc il y a déjà un pas. Donc les parents peuvent se dire oui, on est pauvre, mais on peut faire étudier les enfants dans les écoles où il y a la gratuité de l'enseignement.
Bien, docteur Caroline Bundonga, je rappelle que vous êtes chargée de recherche et point focal adolescents et jeunes femmes au programme national de lutte contre les sida. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup à vous aussi.
Bien, on va accueillir tout à l'heure docteur Anissé Kipacha, qui est à Kikwit, il est expert en santé publique. Docteur Anissé, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à docteur Caroline, bien qu'elle est partie, et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Bien, allez, avant d'aller plus loin avec vous, on va accueillir madame Claudia De Coloisi. Bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour docteur Anissé.
On vous écoute.
Oui, en fait, le problème des responsables, la sexualité responsable, c'est une question d'éducation de base. Mais si la famille qui est censée être le premier acteur, qui est l'acteur principal, qui doit jouer le grand rôle dans l'éducation de ses enfants, si elle n'est plus consciente, c'est là que se pose le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si la famille échoue, ni l'école, ni l'église ne pourra rien faire. Je vais donner un petit exemple. Si une fille quitte la maison avec des vêtements moulants ou des vêtements trop courts, par exemple, une fille dont le professeur a demandé de ne pas participer au cours parce qu'elle mettait les vêtements trop moulants, le professeur lui a dit, la façon dont tu t'habilles, tu attires l'attention de tous les hommes vers toi. Et quand ils vont te courir après, qu'est-ce que tu pourras faire? Si tu t'habilles comme ça, tu ne vas plus participer à mon cours. La fille a répondu que c'est ma mère qui m'a habillée comme ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si la famille est chaude, ni l'école, ni l'église ne pourra rien faire. Mais ce qui est vraiment grave, c'est que de nos jours, on voit dans certains ménages, les parents laissent le téléphone avec le wifi à leurs enfants âgés de moins de 18 ans. L'enfant est libre de manipuler le téléphone, il est seul dans sa chambre, il peut voir tout. Ça, c'est vraiment une catastrophe. On ne gère pas le téléphone. On laisse l'enfant. Comment est-ce que l'enfant peut gérer le téléphone? Et dans d'autres ménages aussi, on voit certains parents suivent des films, peut-être que nos villages, avec les enfants de moins de 18 ans. Ça, c'est vraiment de la folie.
Voilà,
mais si la famille n'est pas consciente, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a plusieurs années où on pouvait voir les enfants jouer ensemble dans les rues, les enfants aller jouer des parcelles en parcelles. Et c'est là aussi, ouais, était aussi la cause de que, à cause de ça, les enfants aussi pouvaient, dès le bas âge, faire les jeux d'enfants et aussi pratiquer la sexualité dès le bas âge. Mais qu'est-ce que nous voyons de nos jours? Tout le monde peut quand même garder ses enfants à la maison. Avec ça, tout le monde pouvait être capable de garder l'œil sur ses enfants. Mais comment se fait-il que, bien que les enfants sont dans la parcelle toute la journée, mais on n'arrive toujours pas à les maîtriser? Notamment les filles.
Oui, à cause du téléphone. Que... C'est ça. L'éducation diffuse telle que Dr Caroline l'avait dit tout à l'heure. Merci Madame Claudia. Dr Anissé, vous avez la parole.
Merci Jordi. Je fais mienne les observations de Madame Claudia que je salue en passant. Mais je voudrais dire, j'ai bien suivi Dr Caroline et tous les autres intervenants, même celui qui a parlé à Kikwit. Je voudrais dire ceci, que l'environnement est un facteur déterminant dans la promotion de la sexualité responsable. Je dis bien, pourquoi l'environnement est très important. J'ai entendu Dr Caroline dire et répéter qu'il faut en parler, il faut en parler. Mais dans quel cadre il faut en parler et quand est-ce qu'il faut en parler? Rappelez-vous, je dis, avant l'année 2000, même un peu plus avant, parler de sexe ou de l'éducation sexuelle, même dans plusieurs écoles, surtout les écoles chrétiennes confessionnelles, c'est un tabou, c'était vraiment un tabou. Aujourd'hui, la conscience des jeunes est inquiétante sur la sexualité. Il est rare de voir des parents en train de parler de l'éducation sexuelle. Pourtant, je dis, il faut jamais oublier ce facteur, le facteur culturel. Donc, je dirais, pour promouvoir la sexualité responsable chez les jeunes, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, surtout des facteurs environnementaux. Et là-dessus, je parle de facteurs d'ordre culturel. Dans notre pays, il y a des coutumes, il y a des provinces où la virginité chez l'enfant a de mérite sur la famille, sur le ménage et surtout la mère. Mais dans d'autres provinces, par exemple, ce sont les grands-parents à un certain âge qui parlent de l'éducation sexuelle chez les enfants, surtout dès que la puberté arrive ou l'adolescence arrive. La fille est surprise lors des premières règles, à qui elle se confie. Et dès qu'elle arrive chez la maman, elle a eu les premières règles. Dans certaines cultures, la maman peut en parler, mais qu'est-ce que la maman dit? Parfois elle dit, maintenant tu es devenue une grande fille. Attention, attention si tu vas attraper une grossesse. Mais elle s'arrête là. Et de même pour le garçon, dès qu'il a ses premiers spots le matin, il remarque... Le sperme le matin chez lui, il se demande quel est ce phénomène qui arrive. Mais elle se confie à qui? Aujourd'hui, on se confie beaucoup plus à l'informel, c'est-à-dire l'environnement dans la rue. Parce que le parent, parce que l'environnement culturel, l'environnement scolaire ne permet pas d'amener les enfants à comprendre. Pourtant, nous avons des très bons programmes, des programmes nationaux de la santé pour les adolescents. Mais là-dessus, on se fie. Je prends des initiatives isolées, je dis, il faut rappeler aux auditeurs. Par exemple, je félicite ce que le DKT fait, les projets sur le jeune, l'approche dite Batela Lobinayo, où on demande aux jeunes de 15 à 25 ans de discuter entre eux sur des questions de la santé sexuelle et reproductive. Et cela leur permet, sans discrimination ni stigmatisation, d'avoir des idées sur les bonnes orientations. Et là, on discute quels sont les risques. En dehors des IST, il y a, comme vous venez de le dire, les infections à VIH et autre chose. Hier, par exemple, j'ai reçu en consultation un jeune homme de 20 ans avec une sténose de l'urètre. Ce jeune homme a fait plusieurs fois des épisodes, il a eu des problèmes d'infection sexuellement transmissible.
Un jeune homme de 20 ans.
Vous ne pouvez même pas mettre la sonde ne passe pas. j'ai des problèmes, je dois communiquer avec les amis urologues, parce que ces garçons, c'était pratiquement chaque deux mois ou trois mois, il a des infections sexuellement transmissibles. Et ça, ce sont des choses que nous voyons couramment. C'est parce qu'il a manqué l'information. Où est-ce qu'il trouve l'information? Le film. Et tout à l'heure, là, c'est, je crois, Claudia qui a parlé des films, l'éducation des bases. Les films, ils regardent n'importe quel film. Nous, quand on était jeunes, je dis, quand on voit un film où les gens sont en train de s'embrasser, nous fuyons tous dans les chambres. Et quand on vous demande qu'est-ce qu'il y a, on dit, oh non, les films montrent des bêtises. Parce qu'à notre époque, dis ça à Lingala, tu vois les gens, ils voient les gens en train de s'embrasser. Voilà. Mais on devait orienter les gens. Donc l'environnement joue un rôle très très important. Et je félicite l'initiative de DKT avec Batela Lobinayo et aussi tout ce qu'il y a dans le programme de la santé des adolescents. Je crois que...
Docteur Anissé, Madame Claudia a dit qu'il y a aujourd'hui dans certaines familles des parents qui ont démissionné de leurs responsabilités, des parents inconscients. La fille s'amène à l'école avec des habits moulants. L'enseignant dit pas comme ça. Il dit non, c'est ma mère qui m'a habillé comme ça.
Effectivement. Il y a des parents qui sont irresponsables. Parce que c'est comme disent... Enfin, les gens ont dit, plusieurs fois on a discuté de ce problème, il ne faut pas tenter les diables. Cette fille qui s'habille de cette façon-là, elle est en train de tenter les diables. Elle passe dans la rue et tout le monde regarde avec une jupe pratiquement au niveau de cuisse et plus haut. Et tu vois ce que ça fait? Elle porte un accoutrement qui n'est pas bien, qui dérange les gens. C'est tenter les diables. Cette maman-là ne sait pas ce qu'elle est en train de faire sur l'enfant. Elle, peut-être, elle se dit, quand les gens disent « Ah, tu as une jolie fille, tu as une fille sexy », elle trouve que c'est un honneur. Au contraire, les bonnes, d'ailleurs, les mamans, comme l'a dit Claudia, qui ont eu une certaine culture religieuse, au contraire, ils disent à leur fille « Cache ton corps, c'est ça qui va, ne l'expose pas, cache-le ». C'est ça qui va attirer beaucoup de sympathie sur toi. Protège ton corps, ne l'expose pas. Ce qui est exposé, ça perd de sa valeur. Mais il y a certaines mamans qui trouvent l'inverse. Et là, Claudia a raison. Mais c'est ce que j'ai dit. L'environnement joue un rôle, l'environnement familial, et en dehors de la famille, c'est ce que les enfants apprennent à l'informel. Les réseaux sociaux ont abîmé, il y a tout là-dedans. J'ai entendu Dr Caroline parler de ça. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la catastrophe chez nous. Il y a les gens, les enfants qui ont sur leur téléphone de films porno. Qu'est-ce que vous voulez que ça reproduise?
Voilà, on retient que l'environnement joue un rôle très important dans l'éducation des jeunes pour la promotion d'une sexualité responsable. Docteur Anissé, je rappelle que vous êtes expert en santé publique. Merci et à la prochaine.